dès le premier match en tant que sélectionneur de Diego Maradona. Et il a un joueur dans son équipe, Diego Maradona, un attaquant qui s'appelle Sergio Agüero, qui a dû quitter le groupe argentin avant le match parce que sa femme, sa compagne, Giannina, est enceinte.
Et c'est mignon.
Elle a des problèmes liés à sa grossesse. Pourquoi ?
C'est le mignon. Diego Maradona qui est le père, en fait ?
Non.
Mais il est passé quoi,
c'est un autre joueur de l'équipe qui est le père.
Non.
C'est quoi la question ?
La question, c'est, outre le fait que ce joueur est parti pour la grossesse de sa femme qui se passe mal, pourquoi Diego Maradona l'a-t-il autorisé à s'en aller ?
Parce que c'est sa fille.
Bonne réponse de Charlotte de Turckheim.
Quand je dis le genre de Maradona, c'est un peu qu'il a épousé sa fille, non ?
Oui, mais elle a...
Vous connaissez le français, vous, ou pas ?
Oh, franchement, t'es minable.
Franchement, elle l'a dit une seconde avant vous.
J'ai dit c'est sa fille. Toi, t'as dit peut-être de gendre. gendre.
Non, qu'est-ce que c'est que ces boucles de verre?
Il faut quand même.
T'es un mufle, de toute façon.
Si je vous dis Carnival of Light, voilà le titre d'une chanson qui devrait faire parler. Pour quelle raison?
Tu peux redire?
Carnival of Light.
Le carnaval de la lumière.
Non. Exactement.
C'est par rapport aux décorations de Noël?
Non.
C'est Amy Winehouse?
Non.
Et posthume, c'est quelqu'un qui est mort qui la chante?
Alors, posthume, pas totalement.
Il est en train de mourir.
Il est dans le coma.
Non, je pense que ça doit être. Ça doit être deux des Beatles qui l'ont fait ensemble. C'est-à-dire que c'est John Lennon et McCartney qui l'ont fait ensemble, et McCartney la sort aujourd'hui.
Non, mais vous êtes tout près, je vais vous accorder.
Mais c'est les Beatles.
Je vais vous accorder la bonne réponse, Pierre Bénichoux. Oui, effectivement, c'est un titre inédit des Beatles qui a été joué une seule fois en public en 1967, qui n'est jamais sorti en disque et que Paul McCartney souhaiterait proposer désormais sur une plateforme internet de téléchargement. Mais pour ça, il faut qu'il ait l'autorisation, évidemment, de Ringo Starr, encore vivant, et des ayants droit, des veuves, donc, de John Lennon et George Harrison. Bonne réponse de Pierre Bénichoux.
Eh ben, il n'est pas rendu, hein.
Ah ouais?
Il n'est pas rendu. Il n'est pas rendu, à mon avis.
Parce que Yoko Ono, elle n'est pas...
Mais
elle est encore vivante, Yoko Ono.
Oui, bien sûr. Elle est vivante et elle vous emmerde.
Ah oui. Parce qu'elle est encore vivante.
Et le titre...
Elle vous écoute, elle est là, d'ailleurs.
Et le titre Carnival of Light dure 14 minutes, en plus, hein, il faut Oula. Savoir. Pierre, en tout cas, bravo, parce que pour quelqu'un qui n'aime pas les Beatles, là, franchement, trouver cette réponse, je savais pas que vous connaissiez la chanson.
Non, mais j'aime pas trop les Beatles, mais je suis...
Préfère les quatre barbus, au niveau groupe.
Ah oui, oui.
Vous pouvez me chanter Carnival of Light, puisque manifestement, vous connaissiez cette chanson.
Carnival of Life.
Carnival of Life.
Ils sont pas prêts à donner les droits, les ayants droit.
Carnival.
Heureusement que ça dure 14 minutes.
Carnival of Light.
Le problème de la drogue, c'est ça.
Vous la chantez par Georges Guettari.
Ah oui,
ça. Ça s'est passé un soir de carnival.
Non, qu'est-ce que Georges Guettari vient foutre là-dedans?
Sans y penser à mal.
J'ai deux amours, carnival et Paris.
Le baby, oui. Care, c'est la question suivante. Le baby We Care va vous permettre de recevoir automatiquement un SMS. Dans quel cas?
Quand votre bébé pleure.
Quand tu oublies ton bébé dans la voiture?
Non.
Et qu'il fait trop chaud. Ou dans un congélateur?
Non. Baby We Care.
Le micro-ondes?
Non, je sais ce que c'est.
Comment ça s'écrit?
C'est une sorte de culotte ou de truc qu'on met sur le bébé.
Quand il a fait pipi.
Et quand le bébé se réveille, ça téléphone aux parents.
Alors, c'est plutôt Christine.
Quand il a fait pipi.
Effectivement, quand la couche est sale,
le
Baby We Care est un capteur capable de détecter l'humidité qui est accrochée à la couche de l'enfant. Et dès que la couche doit être changée, et bien ça envoie automatiquement un SMS.
Et c'est quoi le contenu du SMS? C'est quoi? C'est il a chié lol ou un truc comme ça?
C'est la même chose dans les maisons de retraite?
Enfin, attends, c'est complètement absurde.
Qu'ils mettent des couches confiance avec la puce dedans.
Heureusement.
Mais c'est complètement crétin, ce truc-là. Ça veut dire que t'as abandonné ton gosse. Comment ça, par téléphone? T'es près de ton enfant. C'est complètement idiot, ce truc-là.
Mais non, vous n'avez pas à vérifier.
Heureusement qu'ils mettent pas de ça dans les balles du samedi soir.
Mais c'est...
T'as joui, lol.
C'est ça. C'est en non, langage texto, c'est PDM, plein de merde ou un truc comme ça. C'est...
Oh, non. C'est une innovation, c'est un progrès technique. Vous n'avez plus à.
Mais ils ont pas autre chose à faire, les gens, que d'être.
Et puis regarder à ouvrir la couche pour voir si bébé est propre.
Il faut être obligé de la changer quand même.
Simple, puis c'est juste, tu peux ranger le gosse dans un tiroir comme ça.
C'est une idée, une idée de cadeau pour Claude Sarraute pour Noël,
ça.
Enfin,
ça irrite les petites fesses de bébé quand. Oui, quand vous laissez trop longtemps un pipi ou un caca. Et ben. Mais oui, Pierre, vous savez pas tout ça, vous. Mais
vous savez, vous, Laurent.
Non, c'est
il y a quoi
qui a eu cette gosse, peut-être.
Non, mais Laurent me talle.
On m'appelle Blanche-Neige.
Est-ce que t'as envoyé un SMS pour Joujou?
Ah, mais Laurent me talle que les fesses régulièrement.
Oh, arrêtez avec ça, écoutez.
Mais
vous allez finir par me donner envie.
Mais j'aimerais savoir.
Vous l'incitez, là.
Mais j'aimerais savoir à quel moment s'est passée cette. Cette espèce d'attirance physique.
Mais jamais!
Elle n'existait pas l'année dernière.
Non, mais là, c'est nouveau, c'est
nouveau.
C'est nouveau.
Qu'est-ce que c'est?
Ils ont la frénésie de ceux qui vont le faire.
Qui voudraient
que ça reste secret, mais quelque chose en eux.
Mais on retarde
le fait passer la discrétion à l'exhibitionnisme.
On retarde le moment le plus possible.
Oui, mais qu'est-ce que je fasse avec ce nain, franchement?
Justement, tu peux le laisser debout?
Ah bah oui!
Oh putain!
Oh non! Oh non, le nain est prometteur, moi je trouve. Ben.
Puis avec une casquette, ça passe inaperçu.
Non, ouais, tu lui mets.
Non,
l'été dans le jardin?
Tu lui mets un plateau sur la tête.
Il y a juste.
Pendant que tu te fais à l'apéro.
Moi j'arrête d'écouter. Moi,
Il y a juste une franche camaraderie virile.
C'est ça. Oui,
bien sûr. Surtout de votre part, on va y croire.
Ben oui, entre Jérémy et moi, c'est.
L'histoire de mec.
Voilà, c'est à la vie, à la mort, des vrais potes, quoi.
Comme des joueurs de rugby. Non, pas comme des joueurs de rugby, non.
Tous les soirs, Laurent l'invite à regarder du patinage chez lui.
On va se gêner. Nous prenons la direction du Bas-Rhin où nous attend Diane qui habite précisément Lingolsheim. C'est vers chez vous, ça, Charlotte?
Chez moi, ça, oui.
Bonjour, tiens, vous pouvez lui parler alsacien, Diane?
Bonjour.
Tu feras bien mon petit Schwarzi? Oui.
En fait, je parle pas du tout alsacien.
Et tu sais quoi, ça tombe bien parce que moi non plus.
Je suis désolée, en fait, je viens de Lyon, mais j'ai atterri en Alsace.
Ah, bah, prends l'accent lyonnais, Charlotte.
Qu'est-ce que vous faites en Alsace, alors?
Je suis professeure de PS, maman de deux enfants. Et j'attends un troisième dans un mois.
Allez, Christine, va chercher tes aiguilles et ton tissu.
Vos modèles sont très très jolis.
Merci ma chérie, c'est gentil.
Je ne sais pas si c'était la vocation de cette émission d'attirer les mères de famille nécessiteuses maintenant. Les gens n'appellent plus que pour ça. Moi, j'aimerais bien une petite culotte, petit bateau, un petit machin. Mais on n'était pas fait pour ça. Moi, je crois que j'étais à Allô Lévi-Strauss. J'ai 100 ans. C'est pour ça que je viens vous voir aujourd'hui. Vous êtes comme...
Tu devrais fabriquer des sujets que tu fais. Tu devrais fabriquer des strings, Pierre. Non, comme ça, on aura un autre genre de femme.
T'as qu'à offrir quelque chose aux auditeurs si t'es si généreux que ça. Moi, j'offre des choses aux auditeurs. Vas-y, toi, t'offres quoi?
Je ne parle jamais comme ça.
Depuis que t'es là.
Une fois, je crois, il a offert un abonnement au Nouvel Observateur.
Oui. Mais ils ont pas voulu.
Ils ont refusé, ça l'a vexé.
Diane, professeure d'éducation physique dans le Bas-Rhin, va donc affronter Jean-Pierre qui, lui, habite Lavalette. C'est pas loin de Toulon, ça, dans le Var.
Oui, c'est ça. Bonjour.
Bonjour, Jean-Pierre.
Bonjour, Jean-Pierre.
Bonjour.
Bonjour, Jean-Pierre.
Bonjour, Jean-Pierre.
Bonjour, Jean-Pierre.
Oh, comment ça va, Jean-Pierre?
Quel âge a votre petit, Jean-Pierre?
Bien, merci.
Vous attendez un enfant?
Non, pas du tout.
Jean-Pierre, bonjour.
Je suis célibataire, donc... Christine, bravo, elle est tranquille avec moi.
Ah, bah si vous êtes célibataire, non.
Oui, c'est vrai aussi, oui, c'est vrai.
C'est pas ça, peut-être que Jean-Pierre veut dire qu'il est de Lavalette. Faites quoi dans la vie, Jean-Pierre?
Je suis facteur.
Mademoiselle, j'adore les profs de gym.
Ah oui?
Oh. Si, monsieur Bénichou.
Et moi, vous aimez les mecs comme moi?
Énormément.
Moi, merci. J'adore les femmes enceintes, madame.
Oh non.
J'ai toujours aimé les plans à trois.
Oh non.
Je croyais que t'allais dire comme ça,
écoutez,
c'est déjà ça.
Écoutez, éboué. Même votre sosie Guy Georges n'aurait pas osé dire ça.
Jean-Pierre contre oui. Diane. Un petit message à faire passer aux chroniqueurs. D'abord peut-être Diane. Non.
Eh ben écoutez, moi je voulais dire que l'équipe d'aujourd'hui, elle est. J'aime beaucoup toutes les personnes que vous avez retenues, et en particulier Michel Vernier. Merci, et sinon, au niveau des messages, ben je fais un gros bisou à tous les gens que je connais, de ma famille et du club de gymnastique rythmique de Strasbourg.
Oh, j'adore la rythmique.
Ah oui. Ah, le club de gymnastique rythmique de Strasbourg. Eins, zwei, drei,
choucroute. Ah, mais
non, c'est honteux de dire ça.
Mais ne prenez pas l'accent allemand, nom d'un chien, quand on parle alsacien. Vous vexez à mort, les gens.
Bien sûr.
C'est pas possible.
La dernière fois qu'on a appelé en Alsace, on a eu une bonne surprise.
Hein. Mais on a appelé pour la victoire de Barack Obama parce qu'il avait des ancêtres alsaciens. Ils nous ont tous répondu, il n'y a pas de nègre dans la série.
Déjà, t'appelles, ça décroche.
C'est pas pour ça qu'ils ont un accent allemand.
Oui, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de nègre dans la famille.
Voilà. Ils disent non à Pruti, il n'y a pas de noir chez nous.
Voilà, ils disent comme ça. Ils disent, moi, dis, il n'y a pas de négro à la maison.
Chez nous, on n'a pas de bourgmestre.
Mais en fait,
mais ça c'est va, vrai. C'est déplacé votre émission depuis tout à l'heure.
Ça va,
maintenant
vous
avez
peur, c'est bon.
Tu veux une saucisse pour finir sa choucroute?
Non, mais c'est.
Comment il se la pète tous les noirs maintenant?
Ah, ça y est, maintenant ils ont une
carte. Oh, depuis qu'ils en ont eu un. Qui est arrivé à avoir un petit poste.
Bien sûr, bien sûr.
Il y en a un qui dirige le monde, alors il se prend alors, tout permis.
Bien sûr, on se regardait là.
Maintenant, c'est comme si vous étiez tous des Obama. Ça
bien sûr.
Mais est-ce qu'une élection a fait, une élection peut le défaire.
Bien sûr.
Et le Ku Klux Klan peut faire encore mieux.
Alors tu vas te
regardez la famine au Congo, tu sais, ils crèvent de faim, mais avec une dignité maintenant, ça lève
la
tête.
Ça a tout changé. Ça a tout changé.
C'est scandaleux.
En tout cas, c'est vrai qu'on a eu pas mal de mails d'amis auditeurs alsaciens.
On dit pas des mails, on dit des courriers de couleur.
On a eu pas mal de courriels, si vous préférez, d'auditeurs alsaciens qui nous ont dit rassurez-vous, en majorité, nous ne sommes pas comme les deux auditeurs que vous avez eu en ligne l'autre jour. Et vous, Jean-Pierre, quel est le message que vous voulez faire passer?
Passer le bonjour à toute ma famille.
Vous êtes noir aussi, peut-être, bah, Jean-Pierre.
Si t'es facteur, t'as qu'à leur envoyer un télégramme.
Non, écoutez, vraiment.
C'est vrai. Mais il est facteur, il sert de nous pour envoyer des messages. C'est pas bon, ça, non, mais sérieusement.
Comme quoi, ça marche pas terrible.
Non, mais ça, c'est extraordinaire.
Vraiment, ah, Jean-Pierre.
Il manque pas de culot, celui-là, tiens.
Jean-Pierre, c'est un profiteur du système.
Bien sûr. De quelle couleur, pardon?
La question, la voici. On parle beaucoup en ce moment, et depuis hier particulièrement, d'Eric Holder, qui a 57 ans. Pour quelle raison, Eric?
Pour le ministre de l'Intérieur, je crois. C'est ou de la justice.
C'est-à-dire
des États-Unis.
Expliquez.
C'est un avocat qui est très connu aux États-Unis.
Oui.
Et donc Obama a prévu de le nommer comme ministre dans son gouvernement.
Oui, Eric Holder, c'est le premier noir au ministère de la justice des États-Unis.
Ben oui, c'est ça, la bonne réponse.
Ouais, je l'avais.
La bonne réponse, c'est plutôt Diane qui la donne, parce que vous avez oublié la précision essentielle.
Ah oui,
c'est
noir.
Un noir nommé pour la première fois au poste de ministre de la Justice.
Mais il doute de rien, celui-là.
Oh là là.
Cet Obama.
Et dis donc...
Surtout que c'était un collaborateur de Clinton, le monsieur.
Exactement. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait là, pour les auditeurs? Parce que.
Moi, je crois qu'on peut.
Question subsidiaire, peut-être.
Moitié-moitié.
Non, moi,
ils ont gagné moitié de filet.
Moi, je crois qu'on doit leur donner rien, là, aucun des deux. Parce qu'ils n'auraient pas répondre la même chose.
Non, alors peut-être l'idée, c'est effectivement.
Moitié de filet.
Une autre question.
Voilà. La question subsidiaire, je vais vous la poser. Quelle est la couleur de la peau du premier président noir des États-Unis?
Allez, vous allez gagner tous les deux, c'est OK.
Merci, c'est très gentil.
Laurent Ruquier, on va se gêner sur Europe 1.
La poste de Libourne ouvre aujourd'hui pour la 47e année consécutive la réponse au courrier adressé au Père Noël. 60 secrétaires sont recrutés pour l'occasion. Les courriers viennent généralement de plus de 130 pays différents qui écrivent.
Le centre de tri est à Libourne.
Oui,
exactement. Mais l'adresse postale est en Laponie, comme le disait.
Mais oui, le Père Noël habite en Laponie.
Bon, enfin, il n'y a que vous c'est qui fini, racontez ça à vos enfants.
Non.
Non, c'est vrai.
Le Père Noël habite en Laponie. Je suis désolée.
Il y a la maison du Père Noël.
Il habite dans le ciel, le Père Noël.
Non,
il habite avec Pépite.
Non, c'est pas grave.
Le Père Noël. Les Américains, il habite au pôle Nord.
Le Père Noël, pour pas, il habite chez Médiamétrie parce qu'il y a longtemps qu'on n'y croyait plus.
Oui, mais non, mais Libourne est ouvert toute l'année. C'est un centre de tri et tout ce qu'on appelle les NPAI, les n'habitent pas à l'adresse indiquée. Oui. Dès qu'il y a une adresse qui est un peu bizarre, ça va à Libourne. Mais du moment, il y a des gens qui les ouvrent, les lettres, et qui essayent de retrouver le légitime propriétaire ou destinataire. Et donc là, c'est normal qu'il y ait un rayon spécial Père Noël qui commence à...
On nous explique que c'est parce que le Père Noël français est de notoriété internationale, contrairement aux autres Pères Noël.
Ah oui. Je suis sûr que le Père Noël congolais, attends, on le voit pas souvent.
Tu sais qu'en Afrique, ils font croire aux enfants que le Père Noël vient quand même en traîneau avec des rennes, etc.
Non.
Je sais pas si t'imagines un renne au Congo, il fait 3 minutes, quoi. Il crève de faim ou de machin, mais c'est amusant de penser que...
Il se fait bouffer, oui, tu veux dire.
Et ils mettent, alors les enfants mettent aussi, ils ont des chaussures dans en Afrique?
Non, des tongs.
Est-ce qu'ils les mettent dans le...
Ils se coupent les pieds nus, ils les mettent au pied du sapin.
Dis, mais Fabrice, comment ils font? Est-ce qu'ils ont des cheminées dans les cases?
Bien sûr. Mais moi, en Guadeloupe, j'ai vu le Père Noël arriver en jet ski, hein. C'est super sympa aussi.
Le Père Noël est international, mais c'est le Père Noël français qui reçoit le plus de courriers. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous dites?
Père Noël au lait cru.
Vous avez toujours, d'ailleurs, moi, j'étais gamin, j'écrivais ma petite lettre au Père Noël.
Ouais.
Ah, vous aussi, Christine.
Mignon, Laurent.
Avec les petits calendriers avec les fenêtres, là.
Oui.
Moi aussi, et je recevais jamais ce que j'espérais.
C'est vrai.
Parce que comme mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, j'espérais moi un truc super machin, un train électrique de la meilleure marque Lean, enfin de la meilleure marque. Et je recevais une merde. Le pire souvenir, c'est un truc, j'avais reçu un petit train électrique juste en rond, comme ça j'étais très déçu. En plus, il est tombé en panne le soir de la fête de Noël.
C'est
le jour même.
Moi, mes parents m'offraient un timbre pour envoyer la lettre.
Et Laurent, et comme il savait, il te demandait de pas le coller, parce que comme il savait que le Père Noël n'existait pas, il déchirait la lettre et gardait le tas.
Ah, la misère.
Et vous, Jérémy, vous envoyez... Non,
lui, arrête, il y croit encore.
Je me bouche les oreilles depuis un quart d'heure.
Arrête, il passe devant chez Toys R Us tous les jours.
Moi, on avait tellement peu d'argent que c'est mon père qui se déguisait en sapin pour le soir de Noël. Et le jour où on a démonté l'arbre et on a enlevé les boules, il a...
Non, moi ce que j'aimais bien c'était faire la crèche. Ah, ça j'aimais bien. Ouais. Parce qu'on avait une jolie crèche.
À cause du petit Jésus.
C'était
le bœuf et l'âne qui t'intéressait.
Non, je sais pas, j'aimais bien.
Si, tu mettais le petit
Jésus. J'aimais bien mettre les petits santons.
Et tu faisais une sorte de colline avec de la toile de jute.
Non, mais la jute c'est pour la fausse neige justement.
Oh non. Non, non.
Nous on était tellement pauvres qu'on construisait la crèche en crotte de nez.
Nous on était tellement pauvres, nous, qu'on invitait la vieille voisine pour que ça sente le sapin. On avait pas senti.
Vous salissez tout.
T'as mis dans les santons.
Mais ta gueule, Bonaldi. Vous ne voyez pas qu'on déconne. Il va nous rendre ses santons de chez Prix Unique.
Il va t'expliquer la composition chimique de la fausse neige alors que tout le monde
s'en fout.
Nous on était tellement...
Gardez ça pour Guillaume Durand, merde.
Nous on était tellement pauvres qu'on pouvait pas s'acheter une dinde et nos pères, quand il y avait bu, nous filaient des marrons quand même.
Je vous emmène maintenant à Strasbourg, où Sylvana Koch-Merin, qui est eurodéputée libérale allemande, a accusé ses pairs, ses collègues et confrères députés, les a accusés de faire quoi à Strasbourg d'assez étonnant et d'assez, je dois dire,
c'est pas le
d'assez
souci
terrible.
Par rapport aux prostituées qui venaient dans les hôtels.
Excellente réponse de Fabrice Eboué. Expliquez.
On parle de peloton, il revient dans la course, lui. Hein.
La vice-présidente du groupe libéral allemand a dit que les députés ne travaillaient pas assez à Strasbourg et qu'ils allaient voir les prostituées. Les rues qui mènent au Parlement en sont pleines. On ne peut pas ne pas les voir. Et elle a voulu dénoncer ce problème du Parlement de Strasbourg.
C'est drôle.
C'est quand même assez incroyable.
T'as toute la rue Jules Verne, en fait, juste derrière le Parlement, qui est truffée de prostituées.
C'est la rue qui connaît par cœur, tu sais.
Oui, toutes les artères des putes, je les connais dans toute la France, en fait. Comme ça, tu peux. Mais c'est truffé de prostituées.
Alors, c'est quand même incroyable, ça. Vous pensez vraiment que les députés vont aux putes plutôt qu'au Parlement?
Je pense, oui. Alors, peut-être pas plutôt qu'au Parlement, mais en tout cas, je ne doute pas qu'ils doivent par moments céder à la tentation.
Strauss-Kahn est obligé de faire l'aller-retour en permanence, quoi, du FMI jusqu'à Strasbourg.
Oh, non, non. Non, mais je peux pas croire quand on est député, on va pas.
Pourquoi on n'irait pas aux putes en étant.
Ceux qui font les lois.
Quand on est chroniqueur radio, on le fait, donc pourquoi est-ce que.
Enfin, c'est terrible ça, franchement.
Tu peux y aller, faut juste pas se faire gauler.
C'est illégal dans certains pays, c'est déconseillé dans d'autres.
Non, mais il n'y a rien de.
Le racolage est interdit. Le racolage est interdit. Il y a certains pays où on punit les clients, y compris.
Ça, c'est scandaleux.
Une quarantaine d'eurodéputés ont lancé une campagne pour que le Parlement s'engage à ne pas utiliser pour ses élus des hôtels ayant recours à des prostituées.
On a fait l'Europe, c'est la capitale européenne. Si on peut même pas baiser des filles de l'Est, à quoi ça sert?
Ça devient insupportable.
Non, et puis tu mets deux fois le mot député à la suite et t'as la député, réponse député.
Non mais en plus c'est vrai aussi que les pauvres députés, c'est pas, peut-être ils n'y pensent pas quand ils vont à Strasbourg, mais si les filles se mettent évidemment dans la rue.
Ah, c'est de la faute des filles.
Ce qui doit se passer dans ces hôtels, c'est autre chose, c'est que vous êtes seul dans votre chambre d'hôtel, le téléphone sonne et quelqu'un de l'hôtel vous propose de faire monter une fille. C'est ça.
Un oreiller, voulez-vous un oreiller supplémentaire?
La fameuse phrase. Moi j'ai connu ça dans certains hôtels.
Que j'ai apprise hier, je connaissais pas cette histoire là. Voulez-vous un oreiller supplémentaire? Ça veut dire voulez-vous une.
Ah bon? Dans quel genre d'hôtel ça?
Dans les palaces.
Ah oui.
Le supplément oreiller, c'est le code pour avoir une fille en chambre.
Dans les palaces.
Ah oui, oui, bah tu vois ça au Formule 1, il y a pas de guichet de toute façon.
Donc j'appelle la réception, je dis
un oreiller s'il vous plaît.
Et si j'ai un
oreiller, mais
si j'ai un édredon, est-ce que j'ai le droit à un mec?
Non, c'est le polochon ça. Faut c'est le
polochon. Je partout, tu demandes un traversin. C'est
mais non, mais comment, c'est quoi le code alors?
Mais si, si on te montre vraiment un oreiller, t'as pas l'air con quand même.
Bah oui.
Oh, ça peut servir quand même.
En plume.
On va se gêner, Laurent Ruquier sur Europe 1.
Il y a une publicité absolument géniale, je ne sais pas si vous l'avez entendu, pour l'environnement.
Non.
Vite, 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 agissons contre le CO2, ça chauffe.
Elle est bonne, hein.
Vous pouvez m'expliquer en quoi il vous fait rire, celle-là, Pierre?
Parce que c'est le réchauffement de la planète et qu'ils disent ça chauffe, dans le sens, ça urge.
Ah oui, vu comme ça.
Je l'ai dit peut-être mal.
Vu comme ça. Non, ta voix était bien posée. Mal. Vite,
c'est bien raconté, là.
Oui, non.
Ben, justement, nous allons avoir au téléphone dans un instant monsieur Sylvain Garel, qui est président du groupe Vert au Conseil de Paris. Et Sylvain Garel fait partie de ceux qui pensent qu'il faut absolument supprimer quelque chose qu'on voit de plus en plus à Paris.
Ben oui.
Quoi
donc ? Je sais quoi.
Allez-y.
Eh bien, c'est les cafés qui, sur leur terrasse, laissent fumer les gens en faisant des petits chaufferettes, comme on disait avant, mais qui sont des chauffages en haut.
On appelle aussi
des champignons.
On appelle ça des champignons ou des braseros.
Les braseros, oui, mais voilà. Les braseros à hauteur.
Non, hein, les braseros, c'était du brasier. Oui. Et on mettait ça sous les tables.
Ouais. On appelle ça les chauffoirs aussi sous le
dos. On va lui demander comment on appelle ça. Bref.
Alors, il y a deux trucs.
C'est quand même une bonne réponse de Pierre Bénichou,
oui,
faut le dire.
Oui. Il y a deux arguments. Le premier, c'est que les rayons émis par les braseros dont vous parlez sont porteurs de CO2, je sais pas quoi, de réchauffement de la planète.
Vite.
Et le deuxième argument, c'est que la fumée devant les portes des tabacs,
ouais,
des cafés,
ouais,
pollue l'intérieur quand même.
Bah, on va demander, monsieur Garel, bonjour.
Okay.
Comment vous appelez ça, vous, alors, des braseros?
Des braseros, oui, c'est le nom qui a été celui donné par les cafetiers. Je ne sais pas si c'est l'appellation officielle, mais peu importe. Je rectifie, nous ne voulons pas supprimer les cafés, ni les terrasses, ni même les fumeurs qui fument dehors, mais ces braseros, d'abord parce qu'on a vécu quelques milliers d'années sans eux, et ça ne sert à rien de dire aux gens ne chauffez pas à plus de 19 degrés l'intérieur de vos appartements, et puis en même temps de chauffer l'extérieur ou de tenter de le chauffer avec des appareils qui consomment énormément d'énergie.
Il y a une phrase que vous avez lancée, que je lis dans la presse et qui résume bien tout ça, hein, pour résumer à l'instant ce que vous venez de dire, c'est on ne peut pas dire aux gens chauffez-vous à 19 degrés à la maison et en même temps avoir des braseros qui servent à chauffer la rue pendant ce temps-là. C'est un peu d'ailleurs, je me souviens de la phrase de Pierre Dac qui pourtant n'est pas d'hier, hein, mais plutôt d'avant-avant-hier, qui disait « Je comprends pas, c'est dehors qui fait froid et c'est à l'intérieur qu'on chauffe. Oui. » Finalement, c'est devenu le contraire là aujourd'hui.
C'est devenu le contraire et c'est absurde. Lorsqu'on veut faire de la pédagogie en disant aux gens « Économisez l'énergie, faites attention au réchauffement climatique », comme le disait tout à l'heure Monsieur Bénichou, il faut le faire d'une façon cohérente et on peut pas avoir des messages contradictoires.
Sauf qu'avant, effectivement, les fumeurs pouvaient fumer à l'intérieur. Oui. Et maintenant, ils se caillent dehors.
Les braseros ne datent pas de la loi sur la fumée. Hein. Ça fait 3-4 ans que ça existe déjà.
Ça s'est accéléré
avec cette loi. Oui, mais on ne peut pas, pour des raisons de rentabilité des cafés, faire en sorte que l'on gaspille de l'énergie à chauffer l'extérieur et à réchauffer la planète deux fois.
Qu'est-ce qu'on fait alors, monsieur? La rentabilité du café, c'est aussi le confort des gens qui aiment bien fumer.
Oui, mais tout à fait. C'est pour ça qu'on veut pas. Ce qu'on propose, c'est ce qui se fait par exemple en Allemagne ou dans d'autres pays nordiques, c'est de distribuer des couvertures aux gens qui fument à l'extérieur ou qui sont à l'extérieur. Et ça, c'est tout à fait écologique. Ouais.
Bon, c'est vrai qu'en Allemagne, niveau fringues, ils s'en foutent depuis des années.
Il a raison parce que moi, je suis allé à Berlin il y a pas si longtemps que ça. Il y a des couvertures partout pour.
Elles sont
infligées, les couvertures ou pas?
Là, c'est vrai que je trouve ça assez sympa.
En plus, on peut se mettre à deux dessous.
C'est vrai que c'est assez sympa. Même à New York, regarde, quand il fait très très froid et que tu te promènes avec une couverture.
Mais t'as raison.
Sous une couverture d'avion à cheval dans Central Park, avec ta clope, c'est vrai que c'est sympa.
Oh, bien sûr.
J'adore ça.
Oui, mais le monsieur
enfin,
qui
moi, propose... la fois, fumer au lit, j'ai jamais aimé. Hein,
je vais vous dire, monsieur.
Oui.
Je vais vous dire, moi, je trouve que votre idée de couverture, vous méritez d'être étouffé sous un oreiller, monsieur.
C'est
ridicule. Vous prenez les gens pour des cons, là, on vous donne des couvertures. Comment je vais faire quand je suis dehors, debout? Je mets une couverture, comment? Pourquoi pas un peignoir en soie?
Si vous voulez vous mettre un peignoir en soie, ça va attirer du monde.
Non mais sérieusement,
j'imagine draguer une nana dehors avec une couverture comme ça. Moi ce soir j'ai choisi le carreau, écoute, j'ai plus saillant.
Oui, j'ai pas de chez moi, ça fait genre. Bon alors, dites-moi, quid...
Chacun fait ce qui lui plaît.
Quid de la pollution entraîné par la fumée à l'extérieur.
Alors ça, c'est un autre problème, c'est un problème de santé publique. Effectivement, j'ai lu, comme vous, je pense, il y a quelques jours, un rapport qui disait que la fumée à l'extérieur se rendait aussi un peu à l'intérieur des cafés et des établissements. Donc, ça, il faut vérifier. Ce que je sais, par exemple, c'est qu'au Canada, où j'étais il y a quelques semaines, il est interdit dans les bâtiments publics de fumer à moins de 6 mètres des entrées pour éviter ce genre de problème.
Fumer des pots d'échappement, c'est pas chiant?
Ah bah écoutez, c'est pas à moi que vous allez le dire, je me bats depuis des années pour supprimer les voitures de Paris, donc je vais pas...
La fumée du pot d'échappement des deux roues.
Ah ben je suis tout à fait d'accord aussi.
Car le deux roues est plus polluant que tout, comme vous le savez.
C'est pour ça que je me déplace en vélo.
Comment vous êtes sur les deux roues?
Ah, Pierre adore les cyclistes.
C'est parce que je me déplace en vélo.
Et votre transpiration, est-ce qu'elle est polluante ou pas?
Très très modérément.
J'ai évité de me mettre du déodorant en aérosol pendant des années.
Oui.
Et j'ai appris dernièrement qu'en fait ça n'a jamais pollué, ça n'a jamais accentué
la trousse. Non mais ça nous a bien pollué nous quand.
Ouais, non, je mettais quand même du déo, mais pas un aérosol.
C'est parce que vous étiez sur des anciennes informations. C'était au temps où les déodorants avaient un gaz qui détruisait la couche d'ozone. Mais ça, heureusement, depuis.
Je commence à en avoir un peu marre aussi de votre histoire. Pourquoi est-ce qu'on devrait tous militer contre le réchauffement de la planète? Ça fait deux jours qu'on se gèle les couilles à Paris.
Oui.
Moi, je vais vous dire une chose. J'ai un 4x4. Je fais des tours exprès sur le périphérique tous les jours pour essayer que mes compatriotes aient un peu plus chaud. Et je vois pas pourquoi je serais obligé de militer. Moi, je suis content de pouvoir faire des barbecues au mois d'avril et je commence à en avoir ras le cul. Militer contre le réchauffement de la planète
et comme ça les Africains qui vivent avec 40 degrés vivront avec 50 degrés.
Oui, on prend sur la fibre, la fibre africaine. C'est un peu facile, monsieur.
C'est pas un peu facile, c'est malheureusement la réalité. Il y a déjà des centaines de
on distribuera des couvertures avec la fibre africaine.
On proposait de les faire en chambre.
Moi, je trouve que c'est une bonne idée que la ville de Paris offre des couvertures.
Ah ouais, moi, je trouve ça sympa.
Au bistrot responsable.
Ah, si j'étais prête j'étais prête à lui hurler après sur les braseros, parce que moi, j'aime bien être en terrasse, en hiver, parce que c'est pas seulement pour fumer. J'aime bien ce petit froid qui pique en hiver, au chaud. Tu sais, ça donne l'impression d'être à la montagne. On aime bien, c'est cosy. Et je trouve que des couvertures, si c'est des moumoutes,
c'est bien pour narguer les SDF qui crèvent de froid juste à côté. Moi, j'ai une couverture. Je trouve ça passionnant. Si tu veux,
t'as qu'à fumer, connard.
Bravo, Fabrice. Bravo. Voilà, bravo. Mettre une couverture. Mettre une couverture, une couverture, c'est narguer les SDF. C'est honteux, ce truc-là.
C'est honteux.
Il y a des gens qui crèvent de froid. Bientôt, il y aura des gens qui crèvent de faim dans la crise économique. Et on est en train de faire chier des mecs qui grillent une cigarette
et à la porte d'un café. Vous pensez que les SDF, ils ont les bras zéro pour se réchauffer?
Ne pas fumer à l'intérieur, qui maintenant fument à l'extérieur, et on va les emmerder? Non, mais sérieusement.
Mais ça n'a rien à voir avec le fait de fumer à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est le fait que ça gâche de l'énergie pour
et c'est totalement inutile. Qu'est-ce que t'en sais de l'énergie? Vous ne parlez pas comme ça, monsieur Garrel, qui est président du groupe des Verts au Conseil de Paris.
Président du groupe des Verts au Conseil de Paris?
Oui,
oh là là, alors là,
rien de moins.
Et non, ça nous arrête.
Excuse-toi, Pierre.
Et on en est où au niveau des transports aériens?
Ah ben écoutez, au niveau des transports aériens, je peux vous dire que aussi on essaye de faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins.
Oh,
et
qu'on
essaye par exemple de promouvoir les
télécoms. C'est une mauvaise idée l'avion d'ailleurs.
On pense qu'on pourrait faire beaucoup plus de téléconférences en utilisant des moyens extrêmement modernes pour éviter qu'il y ait des colloques avec des milliers de gens qui se regroupent à l'autre bout de la planète. Des fois pour parler d'ailleurs du réchauffement climatique.
Moi j'ai fait une téléconférence avec un hôtel des Baléares pour Noël où je devais aller.
Mais je vous parle pas pour vos vacances.
La téléconférence c'est aussi bien que d'y aller.
Vous mettez un bras zéro.
J'ai une téléconférence avec hôtel de Palma de Mallorca et qui me disent. Ahora es la hora del baño. Ça veut dire, c'est l'heure du bain.
Oui,
je suis à la maison tranquille. Moi, je pollue rien. Mais arrêtez ces bêtises, non, monsieur.
J'ai une question.
Arrêtez un peu. Sérieusement, votre combat est un beau combat pour le mieux-être, pour le mieux-vivre.
Oui.
Mais arrêtez avec ces bêtises. Il faut donner des couvertures et enlever les bras zéro. Et la cigarette.
Surtout si on n'a pas de bras, comment
on gagne? Depuis tout à l'heure,
il faut supprimer l'avion et remplacer par les téléconférences. Mais arrêtez, mon petit gars.
Monsieur Garrel, il va bien falloir changer si ne veut pas aller à la catastrophe. Mais
est-ce que vous avez pensé aux usagers des clubs échangistes? Moi, j'y vais souvent. Quand on doit sortir pour aller fumer, qu'on est à poil, on a l'air con. c'est Bratmar zéro, je vais vous dire votre truc. Donc, ce serait bien aussi de penser à ce genre d'établissement, monsieur.
Si vous êtes à poil, vaut mieux avoir une couverture qu'un bras zéro pour être dehors.
C'est pas con.
Des chalets sur les Champs-Élysées, de mémoire de Parisiens, on n'avait encore jamais vu ça. Le premier marché de Noël, organisé sur la plus belle avenue du monde, est né jeudi dernier. Il n'y avait pas avant de marché.
Non, c'était quoi?
C'est normal qu'il n'y ait pas de marché. C'est honteux qu'on fait la place.
Mais depuis... là, tu sais quoi? Là, je craque.
Il part en guerre contre tout.
Là, je craque. Depuis le début de cette émission, que tu ouvres ton grand clapet, c'est pour dire j'en ai marre. Alors, merde, reste chez toi, là.
Alors, les bras zéro.
Attends, là, c'est plus possible.
Non.
Il y a une chose à laquelle on n'a pas le droit de toucher pour Christine, c'est le marché de Noël.
Être injurié et même insulté, dans l'honnête qui ça vient. Mais je voudrais que pour la race humaine, tu essayes d'être moins vulgaire. Voilà. Au nom de la race humaine.
J'ai alors, dit ton grand dit, clapet.
Ce
j'ai pas dit
un grand clapet. Attends. Mais où on en dit? Non mais attends.
Mais
expression.
Tu t'écoutes un peu, toi.
Mais oui, mais moi je suis limpide.
Mais tu t'écoutes depuis ce matin.
On dirait une bataille de clodo, tu sais.
Écoute.
Et moi je vais dire marché de Noël, c'est vachement.
Quand on est venu comme les Champs-Élysées, on n'y met pas des boutiques de marché dessus. Je trouve que c'est absolument ridicule. C'est absolument ridicule.
Un stade, on pourrait faire un petit stade.
Et si tu veux me singer, crois-moi que jusqu'à présent, j'ai été d'une charité chrétienne vis-à-vis de toi. Je veux dire sincèrement, si tu veux la guerre, comment ferais-je la guerre contre un tel adversaire? Non, sincèrement.
Mais qu'est-ce qui vous plaît dans les marchés de Noël que d'un seul coup vous preniez tant la défense de ce qui se passe sur les Champs-Élysées?
Oui, qu'est-ce qui vous plaît là-dedans?
C'est joli. Oh, ça, donne...
ça, c'est un bon argument, ça.
Elle le dit calmement.
Mais tu vois, c'est joli.
Douce et gentille.
Elle est douce, c'est joli. On se croira à Megève, tu vois. ça a un petit côté
Noël.
Elle dit Mogève pour faire chier. Non mais messieurs les jurés, vraiment, est-ce qu'elle mérite la peine de mort ou pas?
Mais oui, elle a raison, c'est quand même joli, tous ces petits chalets. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il dit oui. Marcel Campion, parce que c'est à lui qu'on doit ça, Marcel. Le roi des forains. Oh. Il dit, Marcel, que en fait, dans la partie basse des Champs-Élysées, entre le rond-point et la place de la Concorde, il n'y avait rien. C'était le désert.
Et Michel Drucker, quand même.
Oui, à part Michel Drucker, mais il n'y avait rien.
Tu sais, il y a des expositions.
Non, il y avait un Concorde une fois.
Oui, une
Moi, je suis passé là, j'étais bourré, j'ai eu la lune de ma vie.
Entre le rond-point et la place de la Concorde, il n'y a pas assez de magasins. Déjà qu'il y a des magasins. Tu sais que ma belle famille a été obligée de déménager des Champs-Élysées, avec un hôtel particulier formidable. Et ils ont été obligés de déménager quand l'avenue est devenue une avenue pleine de magasins. Depuis quand le magasin et le commerce font le rayonnement d'une ville?
En tout cas, ces chalets blancs, ils sont plutôt jolis, fabriqués dans les Vosges avec du bois importé de Pologne, éclairés avec des ampoules à basse consommation.
Pourquoi on n'a pas de bois chez nous, qu'on soit obligé de l'acheter en Pologne?
En tout cas.
Moi, je sais pas. Mais moi, je trouve que, comme disent les vieux réacs, le monde marche sur la
90
tête,
hein. Cabanons, voilà, qui s'étirent comme ça.
90 cabanons pour les fous, ça suffit pas.
Voilà, des petits cabanons qui permettent d'acheter de boire du champagne. Il y a un chalet à champagne. Ah. Qui permettent d'acheter des toiles. Il y a des peintures qui sont exposées. Les gens peuvent continuer à descendre les Champs-Élysées en faisant leurs courses de Noël, alors qu'avant, il y avait rien dans cette partie-là. C'est ça que veut défendre Christine. Et elle a raison. C'est joli, en plus.
C'est-à-dire, pour les enfants, je trouve que c'est assez beau. Ces petits chalets blancs, lumineux.
C'est pas des enfants, c'est des Asiatiques, tu les confonds, il y en a plein partout sur les Champs-Élysées.
Ils font la même taille.
Ils sont pas grands, mais tu les confonds.
En tout cas, ce sera, parce que là, ça a commencé jeudi, mais ce sera inauguré seulement là, mercredi, dans deux jours, par Victoria Abril et Jean-Michel Ribes.
On va pas s'emmerder alors là.
Mais t'aimes pas par exemple t'aimes pas les pommes d'amour par exemple? Marcher sur les champs avec une pomme d'amour à la main.
Ouais, une couverture d'amour. Aussi, une couverture et tu fumes comme ça.
Sur ton scooter.
Bien, ça
sur ton scooter.
Non mais les jardins des Champs-Élysées, c'est la chose la plus jolie du monde. C'est là où Proust se promenait avec sa grand-mère. C'est là où il y avait ce cabinet d'aisance où elle a eu sa petite attaque. Il faudrait savoir un peu des choses comme ça. Plutôt que de dire, ah, c'est bien une pomme d'amour, j'en ai trop pour rien.
Je l'ai pas dit comme
peu,
ça.
Sincèrement,
j'ai pas dit pomme d'amour.
Nous avons peut-être une frange d'auditeurs qui préfère mes bêtises à vos grossièretés. Voilà, c'est tout.
Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui?
Aujourd'hui,
il y a un toboggan au moins là. Allez,
c'est bien, ça. Pas de toboggan.
Europe 1, on va se gêner.
Les vermusseries de Paul Vermus.
Bonjour Paul.
Bonjour Laurent.
Vous étiez à la soirée Philippe Stark.
Ah, c'était très très bien, ça c'était rue de la Pompe, dans un sublime endroit. Et Philippe Stark avait décidé de convier ses amis.
Il n'y avait pas Perry Cochin?
Bah écoutez, il y avait une sorte de trio infernal qui étaient les anciens pensionnaires de Laurent Ruquier. Ah. Alors figurez-vous qu'il y avait Maureen Dor.
Ah.
Il y avait Philippe Vandel et Perry Cochin.
Vous voyez.
Ils étaient très heureux de se retrouver. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Bon, enfin, il n'y avait pas que à cette soirée. Il faut peut-être pas exagérer, hein. Il y avait un princesse de Yougoslavie. Il y avait Amélie de Bourbon-Parme. Alors, j'ai vu.
Ils ont fait de la radio ensemble aussi.
Vanessa Demouy, Elie Chouraki. Alors bon, ce qu'il y avait d'amusant.
Ah, il y a du beau monde.
Michel Field, c'est
belle soirée.
Non, mais plaisanterie.
Il a déco, elle était années 70 aussi ou
non? Non. Au lieu de faire le malin toujours là, la déco était en trompe-l'œil. Il y avait des têtes de rhinocéros un peu partout. Et ce qu'il y avait très étonnant, et ça je m'adresse à Christine Bravo.
Oui.
C'est que les miroirs étaient floutés, c'est-à-dire que les fans ne pouvaient pas se regarder dans la glace dans ce sublime endroit.
Je vois pas et pourquoi ça... tu t'adresses à moi, connard.
Ouais, sur un autre ton, je faisais ça sympathiquement, c'est pas la peine de m'agresser, là. Franchement, c'est vulgaire de me traiter ainsi.
Non, mais genre, si je
sors. C'est pas peu dire.
Genre, si je sors, je suis obligé de me regarder dans un miroir flouté.
Toutes les femmes se regardent dans un miroir. Et toi-même, quand je te vois, tu te regardes dans un miroir.
Non. Et puis pourquoi flouté?
Non, enfin, ça suffit. Vraiment, j'aime pas cette agression gratuite, là.
Celui qui touche un cheveu de Christine devant moi. Prends mon pied dans la gueule, mon petit gars. C'est tout ce que j'ai à dire. Ma princesse, personne la touche.
Ma princesse.
Ah, vous êtes
rien n'est trop beau pour ma petite reine, connard.
Ouais, dites-moi. Le roi des faux-nerfs, ça suffit, hein.
De nouveau à l'Académie française.
Alors bon, il y a deux nouveautés à l'Académie française. D'un côté, on fait la queue pour le siège de Maurice Reims. C'est très étonnant, les trois candidats qui veulent se présenter.
Comme c'est le siège de Maurice Reims, ils doivent attendre que ça prenne de la valeur.
Alors, en fin d'émission, vous êtes moins drôle, hein, Bénichou. Vous êtes fatigué, hein.
Et tu fous la paix à Bénichou.
Sinon, parce que je t'envoie ma gondesse.
Sinon, ça va chier.
Non, non, mais déjà, je suis expatrié, là, du côté de la porte de Versailles, et vous êtes cinq contre moi, c'est quand même pas convenable.
Tu sais pourquoi t'es mignon, d'ailleurs. Voilà.
Pourquoi il est porte de Versailles? Qu'est-ce qui se passe?
Ben rien, j'ai les bureaux porte de Versailles. Bon,
il
n'a
plus le droit d'entrer dans Paris.
Oh, attention, comment tu... Ils l'ont foutu dehors.
C'est emmerdant pour un chroniqueur mondain.
Je ne suis pas un chroniqueur mondain. En retirer ce mot, c'est insupportable. Ça
alors,
suffit.
Quand vous dites Gauthier, il faut que je retire.
Non,
du chroniqueur mondain. Alors qu'est-ce que tu veux que je... Tu veux pas que je dise journaliste, quand même?
Bon, alors...
Vous êtes allé aussi au Banana
attendez,
Café.
Attendez, je vous ai pas dit, là, l'Académie française.
On s'en fout, franchement.
On s'en fout, mais voilà, Banana pour... Café, vas-y,
non, mais j'avais un très bon... Vous voulez Banana Café?
Ah, tu as pris goût, hein, au Banana.
Oh, ça suffit, là, ça suffit. Alors, bon, ça, c'est très intéressant. Je vous
c'est vrai, moi, ça fait super longtemps que je suis pas venu. La dernière fois que je suis venu, tu nous as parlé du Banana Café.
Alors, et vous,
ah, c'est
écoutez...
un truc récurrent, en fait. Chaque fois, tu parles du Banana Café, en fait.
Ah, il avait une plume dans le cul, la dernière fois.
Non, mais franchement, si je vous croise dans la rue, là, bravo, vous allez voir.
Bah, il faudrait qu'elle sorte de Paris, hein.
Ouais. Alors, bon.
Elle fait pas la banlieue, la mienne.
Bon, alors, je vous raconte ou pas?
Vas-y, oui, vas-y, alors, c'était quoi, alors, au Banana?
Alors, il y a un nombre de personnes, c'est demain soir, mais je suis au courant de tout.
Ah, c'est demain
parce
soir?
Parce que j'aurais donné un coup de main.
Ah,
ouais,
ah,
enfin, ouais, un coup de main, c'est tout.
Ouais, bien sûr, on commence par là.
Qu'est-ce qu'il y a demain soir?
Nombre de personnalités médiatiques ont accepté de se transformer en personnages historiques.
Non.
Alors, ces métamorphoses, Laurent, ont donné naissance à une galerie de tableaux. Ouais. Assez magnifique d'ailleurs, exposé demain soir au Banana Café et vendu au profit de la recherche contre le sida, le centre Alfred Fournier, ça faut le dire. Alors c'est incroyable, mais c'est Oliver Stone qui parraine cette joyeuse sauterie. Alors, je vais vous dire, qui s'est prêté à ce jeu, parce que c'est assez étonnant.
Qui?
Vous avez Coé en Henri II.
Coé en Henri II.
Vous avez Denise Fabre en Madame Récamier.
Oui.
Marie de Rucker en Georges Sand.
Oui.
Vous avez Armand Altaï en Marie-Antoinette.
Très bien.
Julien Lepers en Schubert.
Ouais.
Ouais. Nelson Montfort en Lafayette.
Oh.
Hein, Thierry Roland en Jules Ferry.
Ça doit être chouette.
Ouais.
Thierry Roland en Jules Ferry, c'est bien.
Vous avez
idée.
Jean-Marc Morandini en Don Quichotte.
Oh.
Je dis qu'il faut pas se moquer, moi. Ouais.
Et vous avez Dorothée en Joconde.
Dorothée. Oh, bah alors.
Bon, moi, je vous parlerai pas de moi. Enfin, c'est pas génial. Bon, disons que c'est une bonne petite idée.
Parce que vous aussi, attends, vous êtes un personnage historique,
ouais.
Paul?
Ouais.
En quoi?
En Henri IV.
Ah.
Ah, écoutez, c'est quand même un bon roi, non?
Il faut que je te présente Ravaillac, d'ailleurs.
Dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur Regnault, qui est propriétaire de l'hôtel Les Sternes à Perros-Guirec. Et si on va appeler ce propriétaire d'hôtel de Perros-Guirec, c'est parce qu'il a été le premier en France à installer quelque chose qui, petit à petit, devrait prendre dans les autres hôtels, à la plus grande satisfaction des clients, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a fait en premier, Monsieur Emmanuel Regnault, à Perros-Guirec, dans son hôtel des Sternes?
Des chiottes.
Des quoi, des chiottes? Non, ça, il y en a dans les...
Il change les draps.
Il change les draps.
C'est un truc écologique?
C'est pas écologique.
Est-ce que c'est technologique?
Qu'est-ce que vous appelez technologique?
Dans le genre, mais ce serait pas normal. Enfin, tout le monde le fait, c'est le wifi pour tout le monde, dans le genre.
Ah, on se rapproche.
Ah, c'est un peu ça.
C'est par rapport à Internet?
C'est pas Internet.
Il y a des livres.
Non, alors.
Il y a des livres.
Il y a des bouquins.
T'es con.
Non, mais on est tout près, là.
Les chambres se connectent entre elles.
Non.
C'est communication?
C'est lié aux communications.
Alors, le téléphone.
Le téléphone gratuit. Gratuit, téléphone gratuit.
Le téléphone gratuit. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi et Fabrice. Oui, c'est vrai.
Skype, j'imagine.
Bah oui. Il doit brancher tous les trucs sur Skype et c'est gratos.
Exactement.
C'est ça.
On a Monsieur Regnault au téléphone. Bonjour.
Oui, bonjour.
C'est lui qui nous appelle ou c'est nous qui l'appelons là? Parce que nous on paye.
Il paraît que vous avez été le premier il y a 3 ans déjà à changer votre standard. Vous aviez entendu parler des nouvelles technologies liées à Internet. Bon, l'installation vous aurait coûté 2 000 €, c'est ça?
Absolument.
Et vous avez gardé une seule ligne France Télécom pour le standard. Toutes les autres passent par Internet, ce qui fait que vous offrez à tous vos clients le téléphone gratuit dans leur chambre.
Absolument.
Monsieur, c'est Skype que vous avez pris?
Ah oui.
C'est exactement le même fonctionnement, mais c'est pas Skype, mais ça fonctionne de la même
c'est
façon.
C'est la technologie VoIP, c'est ça?
VoIP over Internet.
C'est quoi le standing de votre hôtel, monsieur?
2 étoiles.
2 étoiles.
Ah, c'est génial, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont effectivement aller à l'hôtel pour téléphoner à leurs potes aux États-Unis.
Exactement.
Et c'est moins cher de payer la chambre que de payer une communication, c'est génial.
Ah non, vous connaissez pas les prix de l'hôtel des Sternes à Perros-Guirec.
Non, c'est pas très cher, je vous rassure.
Bon, vous êtes loin de la mer?
On est juste en face du port de Plaisance.
Les clients sont heureux, satisfaits de votre initiative depuis 3 ans, monsieur Agnew?
Les clients sont très satisfaits, c'est une méthode de les fidéliser, du moins, c'est, voilà. Ça,
juste
ça me
augmenter
de...
les prix des chambres. Mais...
Non, pas forcément. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est surtout intéressant pour les clients étrangers. Sachez quand même qu'un Américain qui téléphone aux États-Unis depuis une des chambres de notre hôtel, s'il reste 10 minutes au téléphone, ça va lui coûter même pas 10 centimes d'euros.
Et votre problème de rats dans les chambres, c'est réglé?
Voilà.
L'année prochaine, c'est le téléphone ou les rats.
Le Figaro précisait aujourd'hui que les hôteliers dans l'ensemble sont restés à des standards d'il y a 15 ans avec des prix d'il y a 15 ans qui sont prohibitifs.
Oui, ça n'a pas bougé et c'est bien dommage d'ailleurs. Donc c'est pour ça que nous on a fait ce choix-là déjà depuis il y a 3 ans et puis ça fonctionne très bien et les clients sont
mais
très
merci,
satisfaits.
Merci et bravo parce que ça m'a encore parlé dans un hôtel et qu'on voit que le Wi-Fi.
Est-ce que la connexion Internet est gratuite?
25 euros pour le Wi-Fi, c'est scandaleux.
Non, c'est gratuit.
Est-ce que la connexion Internet est gratuite?
La connexion Internet est gratuite, oui.
La jungle des tarifs, par exemple, à l'hôtel Ambassadeur, 4 étoiles à Paris, c'est 50 centimes d'euros la minute quand vous appelez en France, 1,20 € la minute quand vous appelez les États-Unis. Quand vous appelez du Hilton, par exemple, un 4 étoiles à Paris, c'est 85 centimes la minute. Et quand vous appelez aux États-Unis, 2,90 € la minute. Non, c'est quand même assez cher, hein. Et évidemment, il y a le vôtre en comparaison. C'est ça qui est rigolo parce que grâce à votre initiative, monsieur, dans la jungle des tarifs, on voit Grand Hôtel Intercontinental, Paris 4 étoiles, luxe. Hôtel Ambassadeur, Paris 4 étoiles. Hilton Arc de Triomphe, Paris 4 étoiles. L'Estern Perros Guirec 2 étoiles, gratuit.
Bravo. C'est bien.
Ça vous fait ça vous fait une pub énorme.
Voilà, bah écoutez.
Bah pour ça, on vous applaudit, on vous remercie, ouais. On vous dit bravo.
C'est moi qui vous remercie.
On va se gêner. Laurent Ruquier sur Europe 1.
248 ont donné 1122. Oh là. Les chiffres comme ça ne vous disent pas grand-chose, mais évidemment, je vous demande qu'est-ce qui se cache derrière ces chiffres-là. Ils étaient 248, ils en ont donné 1122.
C'est des votes socialistes ?
Non.
248 ?
Ils étaient 248 à
avoir. Hommes ?
Oui, hommes à avoir fait quelque chose, et ça a donné 1122.
Oh, ça sent le don du sperme, ça.
Enfin, ça sent en poulet d'autres.
Bah, mais sa taille, il connaît l'odeur.
Ça a donc donné.
Bébé,
1122 enfants. Branlette.
Non, 1122 enfants.
Oh, c'est mignon.
1122 enfants.
Compte en body combien ça fait, tiens, pour voir.
1122 enfants sont nés la même année grâce à 248 Français qui ont donné leur sperme. C'est une bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est une autre campagne du jour et même de la semaine, le don de sperme. Pensez-y, la pénurie de donneurs de spermatozoïdes a atteint un seuil critique. C'est l'Agence de la biomédecine qui lance une campagne de sensibilisation. Vous pouvez appeler un numéro vert si vous voulez donner, pas par téléphone, hein, mais pour vous renseigner, 0800 541 541. Et effectivement, ils sont trop peu nombreux, bien seulement sûr. 248 l'année dernière, sur 350 volontaires, parce que tout le monde n'est pas pris. Il faut évidemment remplir certaines
conditions.
Il
faut avoir un enfant déjà, je crois.
Il faut déjà avoir eu des enfants, bravo. Il faut avoir une compagne aussi, il faut l'autorisation de la compagne. C'est-à-dire, si elle n'est pas d'accord, vous ne pouvez pas le faire.
Ce serait plus simple de ne pas avoir de compagne, en fait.
C'est vrai.
S'il faut lui demander l'autorisation. C'est-à-dire qu'il ne peut même plus te branler en cachette.
Pas seul.
Il faut avoir moins de 45 ans, un ou plusieurs enfants, des différents examens biologiques évidemment qui se révèlent plutôt positifs. Le donneur doit donner son consentement par écrit, de même que son épouse ou sa compagne s'il vit en couple. Non, en fait, les célibataires ont le droit aussi.
Ah oui,
mais il faut qu'ils aient des enfants. Alors
voilà, c'est pour ça le problème, parce que d'habitude c'était traditionnellement les étudiants en médecine qui ont demandé ça, mais maintenant il faut qu'ils soient un peu plus majeurs. Enfin,
il y a de moins en moins.
La campagne d'incitation au don aborde clairement un point essentiel qui n'était que rarement évoqué. On expliquera que le recueil des spermatozoïdes s'effectue par masturbation évidemment dans une salle prévue à cet effet, oui ça il vaut mieux, et garantissant une totale intimité du donneur. Ce que j'ignorais, c'est que donc ça évidemment il y a une totale intimité du donneur, on peut faire ça dans une salle évidemment prévue à cet effet, mais surtout ce que j'ignorais, le donneur peut s'il le souhaite venir accompagner.
Non mais c'est vrai, je savais pas.
C'est écrit là dans cet article, ça me surprend. Le donneur peut, s'il le souhaite, venir accompagner, ce qui est un peu idiot.
Quand tu vois le gâchis qu'il y a dans tous les films porno, c'est un gâchis monumental. Ça part dans tous les sens. Tu veux le mettre dans une éprouvette, si tu veux le récolter sur le visage de sa partenaire, je ne sais où. Donnez votre sperme, bon sang. C'est pour nourrir les Africains, c'est pourquoi les donneurs.
Non.
Non, mais c'est un formidable moyen de draguer. Là, une jeune fille, et tu dis, excuse-moi, là, faut, j'ai un truc à faire, c'est donner un don.
Viens important. Me branler pour.
Viens avec
bien
moi,
sûr. S'il te plaît. Et la fille, elle est d'accord.
Viens m'aider. C'est pour la France.
Non, mais Jérôme, il faut le mettre dans le gobelet, pas dans la dame, hein.
Oui, mais au moins, elle va t'aider, tu vois, c'est, voilà.
La baisse du nombre de spermatozoïdes chez l'homme, parce qu'il faut savoir en plus que la fertilité masculine.
Vous servez plus à rien.
Ouais, la fertilité masculine se dégrade dans les pays industrialisés. Et les scientifiques nous disent que cette baisse du nombre de spermatozoïdes n'est pas constatée partout. La baisse est forte à Paris, mais nulle à Rennes et à Toulouse. À Rennes et à Toulouse, la qualité du sperme est toujours très bonne.
Si on veut de la qualité, faut aller sur Rennes. Hein. Oh, mais c'est incroyable. Votre conversation me navrait depuis le début. Mais maintenant, alors. Ah oui, il paraît qu'en Espagne, c'est de mauvaise qualité. Pourquoi la marque Ramon, moi bien. Ne marque plus. Non mais qu'est-ce que ça veut dire?
Demande à Rachida Dati si elle est de mauvaise qualité en Espagne.
Non, pas ça. D'autant qu'elle a tout ce qu'il faut, elle garde les sauts.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, challenge.
Auditeur contre chroniqueur.
Bonjour Laurence.
Bonjour Laurent.
Saverdin, exactement.
C'est ça, c'est
où ça se trouve?
50 km de Toulouse à peu près.
Tout près de Toulouse.
C'est plus vers Foix?
Oui, c'est 30 km de Foix. Vous connaissez?
Tu connais Foix, toi?
Oui, j'ai travaillé là-bas.
Ah, t'as travaillé à Foix? Qu'est-ce que tu foutais là-bas?
J'étais guide dans une grotte qui s'appelle la grotte de Lombrive. Je sais pas si vous la connaissez.
Mais t'es guide?
Oui.
Voilà.
T'étais à l'époque où vous étiez dans la grotte.
J'étais guide de grotte.
Ouais, tu sais, c'est guide de grotte. Ça, ouais. Guide de grotte.
Je gagnais mon argent en été comme ça. J'étais guide de grotte pendant plusieurs saisons.
C'est guide de grotte, quoi. Voilà.
C'est trop mignon.
Et les gens restaient avec toi et tout dans la grotte.
Ouais, petit bras, me suivaient.
Personne partait en courant, on n'y arrivait
pas. Guide de grotte, ça me fait
penser. J'étais jeune, je ressemblais pas encore à Guy Georges, donc ils avaient confiance.
Suis-moi dans la grotte.
Qu'est-ce que vous faites, vous, Laurence? Vous n'êtes pas guide de grotte en Ariège?
Non, je ne suis pas guide de grotte, je suis prof.
Prof de quoi?
D'allemand.
De grotte.
Prof d'allemand. Ah, oh. Enfin quelqu'un avec qui je peux pouvoir discuter.
Oh là là, non.
D'accord.
Ich liebe dich.
Ich liebe dich, Pierre, il y a d'autres choses en allemand.
Ah non, il y a que ça, moi.
Wiegeonzi, par exemple.
Wiegeonzi, oui, ich liebe dich.
Gut. Es ist ein gut Tag.
Oh ja, und Sie uns, wie geht es dir?
So. Wollen Sie wienen?
Oh ja, natürlich.
Yeah. Vous chantez mademoiselle.
Pierre, les souvenirs. Vous chantez mademoiselle.
Non, vous chantez mademoiselle.
Ah, vous chantez mademoiselle.
Je sais pas si Pierre a des très bons souvenirs de l'allemand, mais bon, laisse-le tranquille. Hein.
Non, la troupe a été brutale. Mais quelle troupe ne l'est pas? Les officiers étaient très corrects. Hein. Très musiciens. Oui.
Prof d'allemand. C'est de plus en plus rare, les profs d'allemand.
À part oui,
vous,
malheureusement.
À part vous et Tokyo Hotel, on n'en connaît pas d'autres.
Hein. Non, si, il fait c'est les élèves qui prennent l'allemand qui sont plus rares déjà.
À l'oral d'allemand au bac, madame, j'ai crié, ils m'ont mis 20, dis donc.
C'est vrai.
C'est exactement ça.
Arnaud, qui habite Saint-Sébastien-sur-Loire, va vous affronter, Laurence. Bonjour Arnaud.
Bonjour, Guten Tag.
Yavrol, ici Yavrol.
Oh, ça me rappelle des souvenirs quand on parle allemand. Qu'est-ce que c'était chouette, alors. En 42, en 43, on n'était pas des salopiens.
C'est l'Europe, Pierre, c'est fini.
Mais tout ça. Mais oui, c'est l'Europe, justement. Moi, j'étais pour l'Europe dès 42. Ouais. Ouais, contre l'Angleterre, bien sûr.
Bon, enfin, écoutez, elle a raison. Christine, aujourd'hui, on est quand même loin de tout ça.
Oui, mais je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Qu'est-ce que vous faites à Saint-Sébastien-sur-Loire, Arnaud?
Aujourd'hui, je ne travaille pas. Aujourd'hui, je garde ma petite fille de 18 mois.
Ah,
c'est mignon.
C'est mignon, dit-il.
C'est mignon. Qu'est-ce qu'il a dit, c'est mignon?
Arnaud.
C'est lui.
Arnaud veut un body.
Le body, voilà, Spinal Berliner.
Mais alors, quand vous travaillez...
Je suis facteur, sinon. Je suis facteur à côté de Nantes.
Un facteur contre une prof. Comment on dit facteur en allemand, d'ailleurs?
Facteur.
Non.
Das Postier.
Comment?
Das Postier.
Briefträger, j'avais oublié. Ah, une Briefträger.
Das Postier.
Eh oui, du verbe trage.
Ah, voilà. Moi, j'ai essayé d'arrêter l'allemand, puis j'ai pas pu, ils sont entrés quand même.
Par la porte.
Laurence contre Arnaud, vous avez peut-être un petit message à faire passer aux chroniqueurs, à votre famille, à vos amis qui vous écoutent. Laurence, d'abord.
Oui, moi, je voudrais faire un gros bisou à mes deux hommes, enfin, à moi, à mon
mari. Lesquels? Je suis l'un des deux.
Oui, si vous voulez, oui.
Oh, dis donc. Et vous êtes plus aimable en allemand, hein.
Vous avez
et
deux maris.
Voilà, à ma maman et à mon frère.
Arnaud contre Laurence, en tout cas. Attention, voici la question. qui porte sur Philippe Séguin, monsieur Philippe Séguin, qui en veut 8 de plus. Que veut-il de
des
plus
goîtres?
Non. Monsieur Philippe Séguin en veut 8 de plus. Quoi donc?
Des enfants?
Non.
8 kilos en plus?
Non, ils ne savent pas, vous devriez en profiter, Laurence et Arnaud.
Des maîtresses?
Non.
Il en veut
8. Des collaborateurs?
Non. Bah non. Monsieur Philippe Séguin en veut 8 de plus.
Des chèvres?
Quoi donc? Des chèvres? Oh, il y a longtemps qu'on vous nous l'avait pas faite, celle-là, les chèvres de monsieur Séguin. Non, pas du tout.
Ça a trait à la Cour des comptes ou pas?
Non, pas directement. Non, non, c'est en tant que Philippe Séguin avec un autre titre qu'il a.
Ah, c'est pas lui alors, c'est pas l'homme politique, c'est quelqu'un qui s'appelle
Philippe
Séguin.
Ah, si, si, Séguin. C'est le vrai Philippe
Séguin. C'est lui, c'est le vrai.
Et il en veut 8 de plus.
Ça a trait à son physique ou pas?
Est-ce que ça servira à tout le monde?
Ah, tout le monde, non, mais enfin, en tout cas, à beaucoup de monde.
Des crèches dans Paris?
Des magasins le dimanche?
Non, non. On met plus de monde que dans une crèche ou dans un magasin.
Un centre commercial?
Non.
Donc.
Des stades?
8 stades!
8 grands stades! Ah, bonne réponse de Fabrice Éboué et Pierre Bénichoux.
Et voilà.
Il veut 8 grands stades.
Ah, car le temps, hein.
Philippe
c'est
Séguin.
Un grand amateur de football.
Ah, ça y est, j'ai trouvé. 8 stades!
Et en effet, Philippe Séguin est non seulement président de la Cour des comptes, mais il a été aussi nommé président de la commission créée en vue de la candidature française à l'Euro 2016 de football. Et aujourd'hui, il devait mettre son rapport à François Fillon parce qu'il y a une remise à niveau des stades français à faire si on veut vraiment organiser l'Euro 2016 de football. On manque de grands stades et il réclame 8 nouveaux grands stades ou 8 grands stades rénovés pour nous en France si on veut vraiment que cette organisation nous soit confiée.
C'est des dépenses inconsidérées, c'est de la folie, c'est des conneries, tout ça, encore une fois. Les stades, ça sert pas à Pinochet, quand il y a des opposants, on les en met des gens dedans. Mais je veux dire, et encore, c'est pas la peine qu'il y ait tellement de gradins, le terrain
bonne
suffit.
Pelouse, ouais.
Non, mais c'est honteux. Ah, c'est le truc des stades, mais c'est comme les piscines. À une époque, il n'y a pas de piscine. Maintenant, n'importe quel village, on a des piscines olympiques où personne ne va. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ces trucs-là? Comme les ronds-points aussi. Mais il y en a marre de dépenser notre pognon.
C'est comme les, mais bien sûr, il a raison. C'est comme les chauffages sur les terrasses aussi.
Ah non, bien sûr.
Oh non, mais merde.
Soyez verts.
Des couvertures dans les grands stades.
On est désolé, Laurence et Arnaud, mais en tout cas, c'est perdu. Pis. Vous auriez dû trouver effectivement que Philippe Séguin réclamait 8 grands stades. Si on souhaite organiser l'Euro 2016, ce serait bien. Pour qu'on le gagne, il faut qu'on soit organisateur. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Donc, vive les grands stades. On vous remercie.
Merci
l'un et l'autre et on vous embrasse.
Merci. Vous aussi, merci,
au revoir. Il y a un chanteur qui a présenté ses enfants, ses deux enfants, qu'il a fait tout seul, conçus par insémination artificielle avec une mère porteuse. Ses deux enfants s'appellent Valentino et Matteo, qui est le papa
Ricky
de
Martin.
Ricky Martin, bonne réponse de Fabrice Éboué.
Et quand vous voulez dire qu'il les a
Ricky
fait tout seul.
Ricky Martin. Alors tiens, alors là, avec, il faut le mettre avec
Pink.
Avec Pink. Alors moi, je connais Ricky.
Oh non.
Martin Carole, je connais Ricky Martin. Ricky Martin, je crois que j'étais un rappeur américain. Moi.
Non.
C'est pas un rappeur, c'est un latino-américain qui chante et qui plaît aux filles. Et qui a eu deux garçons de 4 mois.
Il est très homosexuel.
Il plaît tellement aux filles qu'il a eu quand même des bébés, mais sans femme.
Mais oui.
Ah oui.
Ah bah, il est totalement de la jaquette. Moi, tu savais pas ça, toi?
On dit de la flottante, on dit pas de la jaquette. On dit de la flottante.
Il passe à la maison de temps en temps.
Tu le caches?
Je le cache.
Oui, là, il ne le dénonce pas du
et
tout.
Et vous l'appelez Ricky ou vous l'appelez Martine?
Non, il l'appelle Ricky. Ricky.
On est en train de faire de l'outing parce que je crois qu'il n'a jamais.
Non,
je crois qu'il l'a jamais dit.
Non, il l'a jamais dit.
Je connais pas,
c'est pas bien.
Il l'avait jamais dit, vous l'avez dénoncé.
C'est pas bien de faire ça.
Tu te rends compte, ses parents, ils vont être contents?
Ah bah écoute, à moi, il me l'a dit.
Non.
Ah oui, mais
parce qu'il voulait pas. Parce qu'il voulait pas que
les excuses sont bonnes. C'est ce qui s'appelle un secret.
Toi, c'est une excuse.
C'est ce qui s'appelle un secret.
C'est ce qui s'appelle un secret, oui.
Un homme qui te dit qu'il est homosexuel, c'est une excuse, c'est pas forcément vrai.
C'est un prétexte.
Il a eu peur de vous.
Applause.
En tout cas, si on ne sait pas, on ne connaît pas ses préférences sexuelles, ce qu'on sait maintenant, c'est que c'est un branleur.
Oui. Puisque les jumeaux ont été conçus par insémination artificielle.
Oui, sûr.
Comment on fait dans ces cas-là, alors?
On va dans un endroit.
Eh ben, on se branle sur Internet.
Qu'est-ce que tu dis, Paris Hollywood?
Ben, on donne de sa semence.
Voilà. Mais voilà. Et ensuite, on
la semence est injectée dans une femme.
Bon endroit. Voilà.
Est injectée.
Bah oui.
Comment tu fais autrement?
Ouais, bien sûr.
Bon, alors, verser. Verser.
Non, pas verser non plus.
Ne vous retournez pas, madame.
Inséminer.
Tu sais qu'on peut faire ça avec une pipette, même. On peut faire ça à domicile avec une pipette.
Ouais, mais en fait, on peut pas.
Non.
Tu prélèves avec une pipette un peu de sperme et tu l'injectes comme ça.
Bonjour mademoiselle, vous êtes venue pour la pipette.
L'histoire qui me fait le plus flipper, moi, c'est l'histoire qui est arrivée à Boum Boum Becker, le joueur de tennis. Il a flirté, Boris Becker. On l'appelait Boum Boum.
Oui, on l'appelait Boum Boum tout court. Tu dis soit Boris Becker, soit Boum Boum.
On peut mélanger les
et
deux.
Et pas Boum Boum Becker.
Tu veux pas Boum Boum Becker ?
Non, mais c'est...
Bon, bon, je vous raconte pas l'histoire ? À la demande générale, je continue. Alors, il flirte avec une fille dans les toilettes d'une boîte de nuit. La fille lui fait ce qu'on appelle une pipe. Bon. Il oublie la fille. 9 mois plus tard, elle accouche. Et d'un garçon, elle dit, c'est le fils de Boris Becker. Alors, il dit, mais non, c'est pas possible, j'ai jamais couché avec elle.
Il dit, c'est
elle
un peu dur à avaler, cette histoire.
Elle s'est donc inséminée, mais c'est une histoire connue, inséminée artificiellement la semence de Boris Becker qu'elle avait reprise dans sa bouche.
Non, elle était très souple.
Parole d'honneur, non, c'est vrai.
Mais elle aurait dû s'en douter quand elle a dit, au revoir Boris.
Je crois pas que ce soit possible, Pierre.
C'est possible.
Écoutez, si t'avales de travers, ça va dans l'utérus directement.
Écoute, Laurent. C'est une histoire que j'ai lue et entendue 10 fois, donc je vous en fais le pari.
Mais je crois pas à ce que vous racontez. Je pense que c'est pas possible.
Non, c'est une légende.
C'est une légende urbaine. Le sperme ne reste
ça
pas.
Ça se conserve pas.
La salive détruit absolument
tout. On demandera à Stevie, mais j'y crois pas une seconde.
Laurent Ruquier, on va se gêner sur Europe 1.
Pour quelle raison assez étonnante et particulière, les Dogons sont-ils ainsi à la une de l'actualité ?
Pour un film ?
Pas pour un film.
Pour un documentaire. À la télévision.
En quelque sorte.
Frédéric Lopez, non, il y a pas, c'est pas en terre inconnue.
Et alors
on va à Edouard Baird, je crois que c'est le prochain invité.
Et alors
il va voir les Dogons et il leur présente leur hutte à 100 000, je sais pas, il leur présente leur village. Non.
Parce qu'Edouard Baird a fait une émission.
Il récupère.
Il est
tout,
allé chez les Dogons. Il a passé 8 jours chez les Dogons dans les conditions de vie des Dogons.
C'est ce que vient de dire Jonathan Lambert.
Voilà. Pas du tout.
Moins bien dit, c'est vrai, mais c'était
dans le fond. Je croyais qu'il avait dit que les Dogons venaient à son spectacle.
Je les invite, s'ils m'entendent, je les invite. S'ils écoutent qui est là-bas, je veux bien les inviter.
Non, effectivement, Edouard Baird part en terre inconnue et parti. L'émission a déjà été tournée chez les Dogons, cette population estimée à 700 000 personnes.
Belle bande Dogons d'ailleurs.
La région qui va de la falaise de Biondagara au sud-ouest de la boucle du Niger.
C'est plutôt l'ouest, c'est
vrai. Voilà. Mais c'est pas suffisant ça comme réponse. Pourquoi on parle des Dogons et d'Edouard Baird beaucoup dans la presse aujourd'hui?
Parce qu'il sort avec une Dogone.
Non, tout le monde n'est pas Josiane Balasco. Hein. Tout le monde ramène pas un Indien de terre inconnue.
Elle a fait ça ?
Bon, enfin,
son mari,
bien sûr.
Mais elle a ramené un mari de terre inconnue ?
Non, c'est un Amérindien.
Elle a épousé un homme né de terre inconnue. Mais c'est un bâtard, ça s'appelle.
Alors, il faut qu'on trouve.
Qu'est-ce qu'il faut ajouter ? Alors,
il va devenir Dogon lui-même. Edouard Baird, il s'est fait Dogon.
Non. C'est le général Dogon.
Dans les tribus.
Attends.
L'émission, là, effectivement, Terre inconnue, emmène Edouard Baird chez les Dogons.
Bon, ouais.
L'émission a été tournée, elle va bientôt être diffusée. Pourquoi on en parle aujourd'hui partout dans la presse ?
Il y a eu.
Parce que. De toute façon, on a rien à foutre des Dogons. Rien à foutre d'Edouard Baird. Je veux pas. Faire chier ça, pourquoi on parle des Dogons?
Parce qu'il y a une raison précise dans
combien
l'actualité.
Combien il a touché pour aller là-bas se faire chier là,
dans l'actualité, il y a
parce
précis.
Qu'il y a quelqu'un qu'on connaîtrait qui serait Dogon.
Non!
Un proche, et quelqu'un de l'équipe, Fabrice Eboué et Dogon.
Mais Fabrice Eboué, comment ça se fait qu'il n'est pas là?
Il est en terre inconnue.
Il est en terre inconnue dans le 16e. Il a passé le périphérique, il est en terre inconnue. Attends, mais c'est lié à un autre sujet d'actualité.
Mais oui, évidemment, si je vous en parle.
Qu'est-ce qui se passe en Afrique?
En ce moment, il y a une délégation
Dogon,
à Paris.
Non,
premier ministre Dogon est à Paris.
Le premier ministre Dogon est à Paris et il est reçu
par Sarkozy.
François Fillon, bien sûr.
Mais pas du tout.
Par Bissart Feu.
Il y a autre chose à foutre que de recevoir. Il n'y a même pas de premier ministre Dogon. Enfin, écoutez.
Non, non.
Les Dogons sont avant tout des cultivateurs, essentiellement du mil, et des forgerons. Ils sont réputés pour leur cosmogonie et leur sculpture. La langue parlée par les Dogons est le Dogon.
Au moins c'est simple.
Moi j'aime pas tellement j'aime leur bien langue. Ce qu'ils font en serrurerie et tout ça, mais en viticulture, mais j'aime pas tellement.
Ah oui, en serrurerie, c'est vrai. Les portes surtout, des portes à Dogon. Voilà, excusez-moi. Je...
Alors,
tu nous prendrais pas un peu pour des logos?
Je vous signale d'ailleurs qu'il existe une langue secrète, le sigisso.
Ouais.
Bah oui, si tu parles d'Ogon, tout le monde te comprend. Tandis que là, pour pas que les mecs qui parlent d'Ogon te comprennent, L'autre jour, j'étais au café en bas de chez moi, je parlais d'Ogon, tout le monde m'écoutait. Aussitôt, hop, Sigisso. Et là, dis donc, les gens étaient comme ça.
Ils avaient cherché. C'est drôle.
Il faut une langue secrète.
C'est vrai, qu'est-ce qu'ils avaient besoin d'une langue secrète, les Dogons? Alors, leur suffisait pas? Qu'est-ce qu'ils nous font chier à avoir en plus une langue secrète? Les Dogons sont liés à l'ethnie des Bozos.
Non.
Si, je vous jure.
Il invente, il a une feuille blanche en face de lui.
Par la parenté à plaisanterie.
C'est-à-dire qu'ils se retrouvent, ils font
Dogon,
des blagues.
Dogon et Bozo se moquent réciproquement, mais parallèlement se doivent assistance. C'est un peu
comme au cirque, un peu. Dogon
les
Bozo
sont un peu les Belges des Dogons en quelque sorte.
Ouais,
vous
c'est
voyez
ça, ouais.
C'est quand même rigolo tout ça.
Je crois qu'il a en psychiatrie, ça se.
C'est un nom, ouais.
C'est un nom, il a perdu la conduite du récit.
mais c'est pas l'intérêt, évidemment, de la question.
Non, mais
il y a un rapport
déjà, quand même,
avec l'actualité. Il n'y a pas un journal aujourd'hui qui ne parle pas d'Edouard Baird chez les Dogons. Pour quelle raison?
Quoi? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de précis dans l'émission d'Incroyable avec Edouard Baird?
Non, les Dogons reçoivent Edouard Baird dans leur tribu, grâce à Frédéric Lopez.
On va commencer à le savoir, oui. Ils auraient pas reçu Edouard Baird, les Dogons.
À votre avis, l'émission est... Je vais vous aider, parce que là, ça
s'achète. Ah, pour la première fois, ils ont fêté Noël? Je sais pas.
Non.
L'émission est diffusée quand, à votre avis?
Le soir de Noël.
Mais non.
Ah, parce que c'est le jour de la suppression de la pub?
C'est-à-dire, c'est là...
Le 5 janvier.
La dernière émission où il y aura de la pub.
Non, c'est là.
La première émission sans pub.
La première émission qui sera diffusée.
À 20h30.
À 20h35, le 5 janvier sur France Télévisions. La première émission diffusée un soir sans pub. Bonne réponse de Jonathan Lambert.
Il n'y avait rien à voir avec les Dogons.
Qui va visiter 26 stations au total?
Carla Bruni.
Non.
Des stations de ski?
Non, pas des stations
service.
De ski. Non, pas des stations service.
Radio.
Pas de radio non plus.
Météo, ouais, c'est pas
météo, quasi météo.
Spatial, ouais.
Pas seulement.
D'épuration.
Station scientifique en tout cas. 26 stations scientifiques.
Ah, sur l'Antarctique?
Oui. Oui.
Enfin, pas Borloo?
Non, pas Jean-Louis Borloo.
Nicolas Hulot?
Non.
Politique?
Je pensais que vous aviez la réponse. Oui, il est un peu politique quand même.
Une femme?
Nicolas Hulot?
Pas une femme. Non.
Nicolas Hulot?
Non, pas Nicolas Hulot.
Une de gauche, de droite?
Une de gauche, une de droite.
Un vert?
Je dirais plutôt à droite, je pense quand même, mais enfin bon.
Bérou?
Il est pas français, hein.
Ah, il est pas français.
Eh non.
Tony Blair?
Pas Tony Blair.
Al Gore?
Pas Al Gore.
Obama?
Pas Obama. Obama, il a que ça à foutre d'aller dans l'Antarctique.
Ah oui, ça, oui.
Premier
c'est
truc
sûr
qu'il va faire.
Oui.
Obama, il va dans l'Antarctique.
Oh, tu sais, il nous surprend. Il y a le feu là-bas. Ce garçon, hein.
Ah, c'est pour évaluer l'impact du réchauffement climatique.
Ah, le président chinois, Hu Jintao?
Hu Jintao. Vous connaissez même le nom du président chinois, c'est Stevie. Ça, il est formidable, hein.
C'est bien ça.
Eh bien, c'est pas ça.
Donc, c'est quelqu'un qui est impliqué dans l'écologie, on est d'accord.
Lula?
Le président du Brésil.
Ouais. Ah bah non, il est pas
le président vietnamien.
Pardon.
Jen Chachat, le président vietnamien.
Non.
Est-ce que c'est quelqu'un qui est impliqué?
Non, mais président chinois, c'est quand même quelqu'un d'important.
Est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà impliqué dans l'écologie?
Ah, le prince Charles.
Non, mais
le prince Albert.
Camilla.
Albert.
Le prince Albert. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Et ouais, c'est Joujou. C'est Joujou qui conclut toujours dans ces cas-là.
Ouais.
Stevie, c'est les préliminaires.
Et Joujou, la finition.
Joujou, c'est la finition. Albert II de Monaco, le prince souverain de Monaco. Ouais. C'est lui qui s'intéresse à l'écologie, ouais, quand même. C'est lui qui est habitué à aller comme ça dans le pôle sud, dans le pôle
mais
nord.
Mais justement, c'est étonnant qu'il y soit pas déjà allé.
Non, mais il y retourne.
Mais tu t'accèdes pas comme ça en Antarctique. Hein. Faut des autorisations. Ouais. C'est un continent qu'on veut préserver.
Faut qu'il se méfie quand même, parce que il y a le massacre des phoques là-bas, je crois quand même.
Non.
Laurent Ruquier, on va se gêner sur Europe 1.
Pierre, qui est contre, évidemment, la peine de mort, contre tout emprisonnement, nous a-t-il dit.
Enfin, pas pour tout le monde.
Nous a quand même confié, pas dans la pub, il y en a un que je vais tuer, c'est mon installateur de téléphone. Qu'est-ce qui vous a fait encore, votre installateur de téléphone?
Orange, toi, t'es chez Orange.
Non, madame, je suis chez SFR.
Et alors, qu'est-ce qu'ils vous ont encore? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait?
Toutes les vedettes sont chez SFR.
Toutes les vedettes sont chez SFR.
C'est le nouveau slogan. Ah
ouais. Qu'est-ce qu'il
est? Et, mais qu'est-ce qu'ils vous ont
fait? Les has-been chez Orange. Tu comprends, hein? J'acquiers un nouveau véhicule.
Ah,
le même que l'autre, hein, je suis resté sur Modus.
Placement de produit.
Je suis resté sur Modus et je dis, tiens, mettez-moi le téléphone main libre. Il me dit, installation formidable. Vous avez la Rolls des mains libres, là. Qu'est-ce que je fais? Je suis pas con, moi. Je vais chez SFR. Je change mon téléphone.
Oui.
Et je prends un téléphone assez compliqué. 3G qui s'appelle.
Oh, assez compliqué. Oui, 3G.
Ah oui, avec des trucs et tout ça. Il y a connexion.
Comme ma brosse à dents, 3G.
Connectivité, tout ça, bon. Ah, il me dit non, votre téléphone est trop compliqué, ça marche pas avec notre installation. Il y a à peu près 8 jours que ça s'est passé. Je passe 4 à 5 heures par jour à aller voir les différents spécialistes. Et le verdict est tombé. Votre installation dans votre voiture est vétuste. Je viens de l'acquérir.
Ça fait 8 jours. Hein.
Non, mais peut-être et tu peux pas t'empêcher de bavasser dans ta bagnole, toi. Faut que tu parles tout le temps, toi.
Peu importe. Je ne te parle pas du principe même de parler au téléphone dans ta voiture. Je te parle une fois que tu as engagé des frais pour ce bavassement que tu trouves ridicule.
Et ils ont employé ce mot, vétuste, parce que c'est quand même.
Ils ont dit un grand mot.
Caduc.
Ils ont dit ringarde.
Ringarde.
L'installation.
Alors, j'ai dit comment? Alors, cet après-midi, j'ai pris rendez-vous chez Renault. J'ai pas tapé bas, hein. J'ai pris Carlos Ghosn. J'ai pris le directeur de cabinet de Sarkozy. Et il va lui dire, ou tu rembourses, monsieur Pierre, ou alors, l'argent qu'on devait donner au constructeur automobile est remplacé par un coup de sifflet, bref. Putain, mais... Moi, je veux voir Ghosn à genoux. Dans ma voiture, en train de me changer mon installation. Lui-même.
Nu. Je suis menotté. Sûr qu'il y a du vrai.
Mais je voudrais voir Pierre Bénichou.
Non, je suis dans un état de rage.
Comment à moi, on fait un truc pareil?
Non, mais je suis prêt à me battre. C'est ce qu'il m'a dit quand il m'a donné.
Il vous a dit quoi?
Je change une grosse voiture que j'avais, qui était très bien, contre cette petite. J'aime pas descendre de gamme, moi. Tu sais, comme moi, je suis un ancien pauvre. Moi, j'aime pas. J'aime beaucoup que ça arrive tout de suite un peu plus haut. Et là, je ne laisse jamais. Monsieur, dame, si ça vous intéresse, j'étais sur Velsatis. C'est bien, mais c'est un peu encombrant sur Paris. Bon, alors donc, ils voulaient me la reprendre zéro. Bon, je suis obligé de donner de l'argent pour avoir cette petite bagnole, comme ça, une bagnole de starlette, quoi. Bon, alors j'ai ça, comme ça, je suis là, le jour où il me livre la voiture, il arrive et il me dit, alors, le directeur des ventes, alors, monsieur Bénichou, je dis oui, c'est le grand jour.
C'était Laurent Ruquier.